Donc nous allons revenir en Colossiens. Je regardais, nous étions le 10 mars sur le verset 9 à 11 du premier chapitre. Et aujourd'hui, on va rajouter juste le verset 12 à 14 de Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Mais rappelez-vous la question toujours qu'on s'est posée, comment être enraciné en Christ. Et ce verset, qui est la suite de l'épître, on peut répondre, comment être enraciné en Christ? Grâce à la prière. Ça, c'est ce qui est la lettre, un peu le fil qui nous guide. Et donc, j'aimerais qu'on reprend la lecture d'abord du verset 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez ? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Et nous continuons le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. En quoi consistait la prière de Paul en faveur des Colossiens? Deux choses. Une petite révision, verset 9, il priait pour qu'il soit rempli de la connaissance de sa volonté. Donc, la prière de Paul en faveur des Colossiens, il prie pour être rempli, qu'eux, ils soient remplis de la connaissance. Mais, nous avons vu aussi du verset 10 à 11, qu'il prie aussi que cette connaissance soit mise en pratique. Donc nous avons parlé de la pratique. Quel est le verbe qui résume la pratique? Verset 10, marcher. Et il rajoute, marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous voyez verset 10. Et donc, nous avions parlé la dernière fois, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur? Et nous avons vu quatre caractéristiques de ce que doit être une vie vécue d'une manière digne du Seigneur. Et c'est le texte qui nous dit, au verset 10, marcher d'une manière digne du Seigneur signifie que notre vie devrait avoir pour but de lui être entièrement agréable. Verset 10. Marcher d'une manière digne du Seigneur signifie porter continuellement du fruit dans son caractère et dans sa conduite. C'est le verset 10. Portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Troisième point, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur? Marcher d'une manière digne du Seigneur signifie tout simplement grandir spirituellement. Et nous le voyons, verset 10, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Il donne le moyen pour croître. Donc, signifie grandir. Et nous avons vu en dernier, qu'est-ce que ça veut dire marcher d'une manière digne du Seigneur? Marcher d'une manière digne du Seigneur se manifeste par l'action de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous lisons, portant des fortifié, verset 11, à tous égards, par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Nous avons souligné, quand on parle de puissance ici, dans notre esprit, tout de suite revient l'idée de quelque chose de spectaculaire qui en sort. n'est-ce pas? Mais dans notre verset, c'est pas du tout ça l'effet de cette puissance dans la vie des Colossiens. Ça agit sur les caractères, donc c'est intérieur en nous. Cette puissance agit d'une manière non spectaculaire, mais c'est visible dans le caractère. Et oui, ça se manifeste par la patience, la persévérance, la joie et la reconnaissance. C'est le texte qui nous le dit. Et alors aujourd'hui, donc, nous allons voir le verset 12 à 14. Et cette fois-ci, on va regarder un deuxième verbe qui résume la vie pratique chrétienne. Nous avons vu donc le verbe marcher. Nous venons d'en faire un rappel bref. Deuxième verbe aujourd'hui dans notre passage qui résume l'aspect pratique de la vie chrétienne au verset 12, c'est rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aujourd'hui, c'est juste ça. Avez-vous remarqué ce que Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire que Dieu nous a qualifiés par sa grâce en faisant de nous les héritiers d'un héritage. Il nous a qualifiés. Il nous a doté des capacités. Il nous a rendus compétents, s'il vous plaît. N'est-ce pas? En faisant de nous les héritiers d'un héritage. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Question, la première. Quand est-ce que nous étions qualifiés pour recevoir un héritage? Le texte, dans notre passage, ne nous le précise pas. Mais, dans la Bible, on a la réponse. Et donc, il faut regarder les passages qui traitent de ce sujet. Quand est-ce que nous étions rendus capables d'avoir part à l'héritage? Eh bien, la Bible, vous savez, s'explique par la Bible. Donc, c'est pour ça que nous allons regarder 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 4, pour trouver la réponse à cette question. Je vous invite, c'est affiché sur le PowerPoint, ou regardez votre Bible. Pierre, en réfléchissant à tout ce que sont devenus les chrétiens, ceux qui sont devenus en Christ, en méditant sur ce sujet, ils sautent de joie. Et ces chrétiens auxquels il s'adresse, c'est des chrétiens qui endure des épreuves, qui endure des souffrances. Et en pensant à eux, tout de suite, ça leur revient de réfléchir ce que Dieu a fait dans leur vie. Et nous lisons comment ils sont de joie. Il dit ceci, nous lisons au verset 3 du chapitre 1. Béni soit Dieu. Oui, ils sont de joie. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Voilà la réponse. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Ah, on parle bien de l'héritage. Et comment ils ont eu l'héritage? Ils sont passés par la régénération. Ça mérite un peu une petite explication. Dieu nous a régénérés. Pour devenir chrétien, il ne suffit pas d'embrasser une religion. Et je dirais même, ni d'ajouter quelques pratiques religieuses à sa vie. Ce passage nous parle, il faut passer par la nouvelle naissance. Ce que signifie régénérer, ça veut dire né de nouveau. Né de qui? Né de Dieu. Quand on est né de nouveau, on devient une nouvelle personne. une nouvelle créature. Pourquoi? Parce que le jour de notre conversion, Dieu a implanté en nous sa vie, la vie de Dieu en nous. Dieu a fait demeurer en nous le Saint-Esprit depuis le jour de notre conversion. Ainsi, quand le Saint-Esprit fait sa demeure en nous, nous avons de nouvelles aptitudes, de nouvelles préférences, de nouveaux buts, de nouveaux intérêts. Tout ceci, on peut résumer en un mot, régénéré. Né de nouveau, spirituellement parlant. En étudiant le texte à l'original, le verset ici ne sort pas tout à fait ce que Pierre voulait dire. Et je veux, en partant du grec dans le manuscrit original, retraduire ce verset 3 ici et 4. Dieu nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Ok ? On saute. Et ici, les choses qu'il faut préciser. De sorte que nous puissions recevoir un héritage. Il faut le comprendre comme cela. Quand il dit, nous a régénéré pour une espérance vivante, je saute, pour un héritage. Et il qualifie l'héritage. Mais il faut bien comprendre littéralement ce qu'il voulait dire. Dieu nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, trois points de suspension, de sorte que nous puissions recevoir un héritage. Pourquoi le comprendre bien ainsi? Parce que par là, il est souligné que notre salut nous place dans une position où nous vivons pour un héritage. Je veux redire. Cela souligne le fait que notre salut nous place dans une position où nous vivons pour un héritage. Ça colle avec le passage en Colossiens. Donc, Dieu nous a qualifiés pour recevoir un héritage au moment de notre conversion, au moment où nous sommes régénérés, nés de nouveau. Donc, notre qualification pour recevoir un héritage a eu lieu à la conversion. Mais une petite précision, même si la possession effective de la plus grande partie de l'héritage est encore à venir, nous vivons toujours en tant que croyants sous une tension. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a le déjà, il y a encore le pas encore. Déjà et pas encore. Nous vivons déjà pour l'héritage. L'héritage, on l'a. Mais nous ne l'embrassons pas encore dans toute sa totalité, maintenant, ni dans l'avenir. Nous l'avons déjà, mais pas encore dans le sens que nous l'embrassons dans toute la totalité. C'est ça. Et chers frères et sœurs, c'est important. Cela doit toucher notre esprit. Et cette vérité doit impacter notre vie. Ici-bas. Je vis depuis ma conversion. Le plan de Dieu, c'est que je vis pour un héritage. Alors, quand mes pensées sont focalisées sur mon héritage, vous vous rendez compte de plus en plus que le monde dans lequel nous nous trouvons n'est pas tout à fait notre résidence permanente. On se sent de plus en plus qu'on n'est pas chez nous en étant dans ce monde. Oui, on devrait vivre ici-bas, je dirais comme Pierre va rappeler à ses destinataires de sa lettre, hein, les mentalités de voyageurs, d'étrangers. Quand on dit étrangers, ils n'appartiennent pas complètement à ce monde. Oui, Les chrétiens sont des gens qui habitent ici pour un peu de temps avant de déménager pour notre domicile permanent céleste, là où est placé notre héritage. Alors, cela doit se traduire de manière pratique dans nos vies par le fait combien de temps nous passons pour amasser des trésors dans les lieux célestes. Je regarde ma propre vie, je me lève, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que je suis motivé pour mon héritage? Ou est-ce que je veux rester comme si mon domicile permanent est ici? Et alors j'amasse, je me lève, je me suis, je transpire pour avoir le maximum. Ça me fait rappeler à cette parabole de l'homme riche. Vous allez le relire chez vous dans Luc chapitre 12. Où cet homme a une perspective un peu plus loin. Parce qu'il regarde ses biens, il annonce, il y a une annonce de très bonne récolte. Il commence à réfléchir, oui, il faut que, pour amasser tout ça, j'agrandis mon grenier. Mais donc, on va avoir plusieurs greniers. Et une fois que le travail est fait, il planifie, alors, on va fêter, on va manger, on va boire. Eh bien oui. Et Jésus tire l'enseignement. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée. Ça fait réfléchir. Où je déploie mon énergie pour tout ce qui est là amassé, amassé comme cette personne dans le parabole? Où est-ce que nous amassons des trésors dans le ciel pour être riche pour Dieu? Voilà la question qui a un lien avec notre héritage. Le passage ne nous dit pas, mais quel est cet héritage? Nous avons répondu à la question, quand est-ce que Dieu nous a mis dans la position pour recevoir un héritage? Au moment de notre conversion. Mais maintenant, mais de quoi Paul parle quand il parle d'héritage? Regardons ça maintenant. Colossiens, donc, chapitre 1, versets 12 et 13. Pour répondre à cette question maintenant. Quel est cet héritage? Il est écrit au verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ah. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Avez-vous remarqué le contraste très clair où Paul met en contraste la lumière, les ténèbres? Pourquoi? Pour exprimer l'ampleur du changement que le croyant expérimente à l'instant même où il place sa foi en Jésus au moment de sa conversion. Vous voyez, la nouvelle naissance, c'est un miracle surnaturel qui vient de Dieu. Avant, j'étais complètement dans les ténèbres, loin de Dieu. Il n'existe pas pour moi. Il ne comptait pas pour moi. Et au moment de la conversion, quelque chose s'est passé. Du ténèbre, je viens à la lumière. Donc ce contraste, c'est pour souligner cette réalité de fait dans la vie de ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Mais notre passage va nous donner plus de renseignements pour bien saisir qu'est-ce qu'il veut dire quand il parle de l'héritage. Donc ces contrastes permet aussi de nous aider à comprendre, dans le contexte du passage de l'Épître aux Colossiens, la signification de cet héritage réservé aux saints dans la lumière. Et pour comprendre cela, Paul a besoin de donner des informations supplémentaires. Et les deux informations sont les deux sujets de reconnaissance que nous lisons dans le passage. Ils sont là, ces deux sujets de reconnaissance, pour nous aider à comprendre ce qu'est cet héritage. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le deuxième sujet de reconnaissance? Dieu nous a délivrés du domaine des ténèbres de Satan. Et une petite précision, ça aussi a eu lieu lors de la conversion. Déjà, mais pas encore dans l'embrassement, dans la totalité. Donc les croyants étaient délivrés de la puissance des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Jésus-Christ. Avant, nous étions des rebelles, hostiles à Dieu. Et nous sommes venus à Dieu jeter les armes de rébellion et placer notre foi en Jésus. La lumière, Jésus la lumière. Et ce n'est pas le cas de ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus comme être le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Et c'est ce que nous lisons dans Jean 3, versets 19 et 20. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, donc la lumière était à la disposition de tout être humain. Mais tout, chacun est responsable de répondre à la lumière. C'est pareil dans cette salle aujourd'hui. La parole de Dieu nous montre la lumière qu'est Jésus-Christ. Mais chacun doit répondre pour son compte vis-à-vis de cette lumière. Et c'est ce que Jean est en train de dire. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Juste, il m'est arrivé d'y penser, à ces petites bêtes, les insectes. Savez-vous, vous le savez, hein, que les cafards détestent la lumière. Et même la lumière du jour. Et c'est pour ça qu'ils ne sortent jamais que dans un endroit où il fait noir, la nuit. S'il y a de la lumière, ils vont s'enfuir tout de suite pour se cacher. Et vous savez pourquoi je prends cet exemple? Parce que parfois, nous agissons aussi comme les cafards. C'est ce que je vois dans ce que Jean dit dans Jean chapitre 3, versets 19 et 20 que nous venons de lire. Nous agissons comme les cafards car nous n'aimons pas être dévoilés. Nous n'aimons pas être exposés à la lumière. Et donc on refuse d'être exposé à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'on préfère rester dans ces ténèbres, dans le péché. Et on refuse que notre vie soit changée. Ainsi, on préfère continuer à vivre dans la désobéissance, dans le péché, etc. Attention, les cafards se cachent à la présence de lumière. Mais nous, en tant qu'hommes et femmes, créatures de Dieu, nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Je peux cacher des choses de ma vie à ma femme. Peut-être les enfants, ils ne sont pas là, à leurs parents. Mais jamais avec Dieu. Dieu voit tout. Et vous savez, même les motivations les plus secrètes, vous ne parlez même pas, mais ce qu'il y a dedans, dans votre esprit, Dieu voit tout. Les mauvaises pensées du cœur, Dieu voit tout. Donc on ne peut rien cacher. C'est pour cela que la parole de Dieu nous avertit. Je parle aux chrétiens. Ici, dans 1 Corinthiens 3, verset 5. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. écoutez bien, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et qui manifestera les desseins des cœurs de chacun individuellement. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La parole de Dieu est claire. Il voit tout. Et nous devons rendre compte à Dieu de ce quoi, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie depuis notre conversion. Ce que Paul vise ici, c'est ce qu'on appelle le tribunal du Christ. C'est pour les chrétiens. Ce tribunal n'est pas là pour décider si je vais en enfer ou j'y vais dans le ciel. Ce problème est réglé une fois pour toutes le jour de ma conversion. Mais ce dont Paul parle ici, dans le tribunal de Christ, c'est un tribunal qui aura lieu en présence du Seigneur pour que nous puissions rendre compte de ce à quoi, comment j'ai vécu ma vie depuis que je suis converti. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et donc, c'est un tribunal pour rendre compte de notre vie, de nos œuvres. Donc, il ne s'agit pas ici de perdre le salut. Non. Par contre, si nous n'avons rien fait de notre vie, on peut perdre les récompenses. Et nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. On n'a pas le choix, on ne peut pas l'éviter. J'aime toujours ces petits impératifs dans la parole de Dieu. Il y en a nombreuses. Et ça fait partie d'un des impératifs de Dieu à notre égard, dans son plan. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, étant dans cette enveloppe. Maintenant, vous voyez cet impératif? Chacun n'y échappera pas. On sera devant le tribunal de Christ. Et par rapport à qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, n'est-ce pas? Étant dans ce corps. Ça nous éclaire alors concernant quel est cet héritage? Et nous avons dit que les sujets de reconnaissance suivantes nous aident à comprendre cette question de quoi s'agit-il quand il parle de cet héritage. Et nous lisons dans le verset 13 aussi un autre sujet de reconnaissance que Dieu nous a transporté, ou en quelque sorte transféré dans le royaume de Christ. Ça mérite un peu une petite explication de quoi parle-t-il quand il parle de transporter. Transférer. L'image, c'est que dans les temps anciens, les rois arrachaient de leur pays le peuple qu'ils avaient conquis et les déplaçaient vers une terre étrangère et lointaine. Rappelez-vous, c'est ce qui est arrivé au peuple juif quand ils étaient amenés en exil en Babylone. Je parle du royaume du Sud. Ils passaient de la liberté à l'esclavage. Mais quelque chose, ce qui se passe pour les chrétiens, c'est tout à fait le contraire. Nous avons été déportés d'une terre d'esclavage, du péché, de Satan, à la liberté. Pas comme les peuple du royaume de Juda, qui passait de la liberté à l'esclavage, mais nous sommes transportés de l'esclavage à la liberté, du pays des ténèbres à la lumière glorieuse du royaume de Dieu. Et vous savez, cette délivrance demandait un grand prix. Le prix de notre délivrance et de notre pardon, c'est l'effusion du sang de Christ au calvaire, pour que nous passions des ténèbres à la lumière. Et c'est très intéressant, la vie de l'apôtre Paul, quand il rend témoignage devant le roi Agrippa, en Actes 26, versets 17 et 18, illustre bien de ce passage du ténèbre à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. Regardez votre Bible dans Actes 26, versets 17 et 18. Paul raconte son témoignage. Et il raconte ce qui s'est passé quand il était sur la route de Damas. Au verset 17, nous lisons, « J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. » Les païens, ça veut dire les non-juifs. « Vers qui je t'envoie ?» Pourquoi faire ? Verset 18, « Afin que tu leur, c'est-à-dire les non-juifs, ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Ici, c'est quelque chose que je tiens à vous faire remarquer. Il y a ce qu'on appelle un parallélisme. C'est quelque chose qui est répété deux fois, mais pas en utilisant les mêmes mots. Il dit, les païens non-juifs aussi doivent passer des ténèbres. Ça, c'est la première partie. À la lumière, la deuxième partie. Et où est le parallèle? Il va le dire, le parallèle à cette phrase. Il passe de la puissance, c'est le mot grec exousia, ça veut dire autorité de Satan. Ça, c'est le parallèle avec les ténèbres. Les ténèbres, donc, c'est la puissance ou l'autorité de Satan. À Dieu. À Dieu, c'est le parallèle avec la lumière. C'est important. Donc, de là, il est clair que le royaume dont il est question ici, ce n'est pas le royaume de Christ sur la terre pendant 1000 ans. Ce n'est pas ça. Et même dans Colossiens, ce n'est pas ça. Ce royaume ou ce règne se manifeste par le règne actuel de Christ dans la vie de chacun des siens. Ce n'est pas le règne de millénium, c'est le règne actuel de Jésus dans notre cœur, dans notre vie à chacun. Et ce règne, nous comprenons maintenant, il y a quelque chose de définitif qui s'est passé au moment de la conversion. On est passé de ténèbres à la lumière. On est passé du royaume de Satan dans lequel on était son esclave au royaume de la lumière, celui de Jésus-Christ, au moment de la conversion. Et donc, nous comprenons maintenant qu'est-ce que c'est que cet héritage. Cet héritage, c'est le fait que depuis notre conversion, le règne de Jésus-Christ est dans notre vie. Et ce règne qui est marqué par le passage de ténèbres à la lumière, du royaume de Satan à Dieu, se manifeste maintenant par la lumière qui se manifeste dans ma vie de tous les jours. Et pour vous nous éclairer à cela, regardez Éphésiens 5, versets 8 à 9 et verset 11. Ça devient clair quand il parle de cet héritage maintenant, que c'est le règne de Jésus dans notre cœur. Et cela va se voir par la lumière, la métaphore de la lumière qui brille pour que tout le monde voit qu'il y a quelqu'un qui règne dans mon cœur. Éphésiens 5, versets 8 et 9. Autrefois, vous voyez bien la séparation, autrefois il y a le passé, vous étiez ténèbres. Le texte ne dit pas vous étiez dans les ténèbres, vous étiez ténèbres. C'est clair. Et maintenant, il y a le passé, maintenant, au moment de la conversion, vous êtes lumière. Vous êtes dans la lumière, c'est parce qu'il est écrit, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et alors, ça c'est votre position devant Dieu. Ça doit se traduire par votre conduite. Et il écrit, marchez alors comme des enfants de lumière. Vous voyez? Et il continue verset 9. Car le fruit de la lumière, c'est quelque chose de visible que tout le monde voit, consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Et ma position, la séparation dans ma position entre ce que j'étais dans les ténèbres avant, et j'étais ténèbres, et maintenant ce que je suis dans la lumière, et je suis lumière, se manifeste même dans ma prise de décision radicale. Verset 11 de Éphésiens 5. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On ne plaisante plus. Il y a une séparation. Le fait que spirituellement parlant, il y a quelque chose de radical qui s'est passé, je suis basculé du ténèbre à la lumière, du royaume de Satan arraché de là, placé dans le royaume de Jésus-Christ, ça se voit par le fruit de la lumière, parce que je suis lui. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage. Et dans l'Épître aux Colossiens, je veux vous encourager à le lire, que cette lumière va maintenant rayonner dans divers domaines de ma vie. Je vous cite les références. Cette lumière va se manifester dans ma vie de couple. Regardez Colossiens 3. Versets 18 et 19. Cette lumière va se manifester dans le rapport familial entre les enfants et les parents. Colossiens 3, versets 20 à 21. Cette lumière va se manifester dans mes rapports avec mes frères et sœurs et même mes collègues qui ne sont pas en Christ. Colossiens 3, versets 13 à 17. Là, pour notre rapport en tant que frères et sœurs, il y a la place maintenant au pardon. Il y a place maintenant à se supporter les uns les autres. Lisez le passage. Il y a place maintenant de l'amour les uns pour les autres. C'est radical. C'est radical. C'est pas ce que je vois au travail. Mais ça se fait, ça se voit, cette lumière dans ma vie, maintenant, avec mes frères et sœurs, et même avec mes collègues, au travail. Et ça se voit aussi dans mon rapport avec mon chef, même s'il est de caractère difficile. Colossiens 3, versets 22 et 23. Donc, c'est clair que cet héritage, c'est le règne de Jésus dans ma vie, qui va se manifester cette lumière autour de moi. Et toutes les sphères de ma vie vont être touchées. Et tout le monde va le voir. Et oui. Avant, j'étais un rancunier. Avant, j'étais avec un esprit de vengeance. Maintenant, le pardon a sa place. Je peux pardonner. Parce que j'ai été pardonné. Avant, j'étais égoïste. Tout est pour moi, tout est à moi. C'est tout est centré sur moi. Terminé. À cause de ce changement radical que Dieu a opéré dans ma vie, pour une première fois, je pense aux autres. Je mets mon intérêt derrière, mais l'intérêt de mes frères et sœurs avant, d'abord, il passe avant moi. Voyez-vous ça chez votre collègue non-chrétien? Voyez-vous ça dans le monde? Et ça doit se voir dans l'Église. Voilà le changement radical. Vous savez, il arrive malheureusement que ce savoir hérité d'un royaume de sainteté, de pureté, de vérité, de lumière, parfois n'a rien d'exaltant. Et je dirais même un triste héritage pour celui ou celle qui préférait encore le péché, qui préférait encore le mensonge, la colère, l'impureté, les méchancetés, la malhonnêteté, les mauvaises pensées, la tricherie, l'amour de l'argent et toutes ces choses. Il n'y a rien d'exaltant pour vous, ce royaume caractérisé par ces choses, cet héritage, si l'homme préfère vivre encore dans le péché, faire comme si on n'était pas des héritiers. Si tel est le cas, on doit examiner sa vie devant Dieu. Est-ce que je suis vraiment en Jésus-Christ? Parce que c'est pas normal que je n'ai aucune aspiration, qu'il n'y a aucun changement, aucun désir de vivre pour le royaume de Jésus-Christ, caractérisé par ce que nous venons de voir tout à l'heure. C'est pas normal. Et si je ne vis pas pour ces choses dans la lumière du Seigneur, quel est l'obstacle? On doit réfléchir. Quel est le péché dans ma vie qui m'empêche? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit en moi ne peut pas prendre toute l'ampleur de ma vie pour qu'il le dirige? Qu'est-ce que je maintiens pour qu'il ne règne pas dans ma vie? Vous savez, on peut attrister le Saint-Esprit. Il ne sort pas de nous, il fait sa demeure toujours en nous. Mais il peut être mis dans un petit coin et on lui dit « tais-toi ». Horreur pour nous. Je veux terminer en disant ceci. Est-ce que vous avez essayé de respirer dans l'eau? À la plage? C'est difficile, n'est-ce pas? Pourquoi c'est difficile de respirer dans l'eau? Tout simplement, nos poumons ne sont pas adaptés pour respirer dans l'eau. Pour un adulte, je lisais sur Internet, pour réussir à obtenir une quantité suffisante d'oxygène pour un corps adulte dans l'eau, il faut respirer 30 fois plus vite. Imaginez votre cœur, boum, 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 boum. Ça vous amène à l'épuisement si rapidement. N'est-ce pas? Et oui, parce que nos poumons ont été créés pour un monde, il y a de l'air. Et il n'est pas fait pour l'eau. Et alors, si on veut respirer dans l'eau, il faut être équipé de bouteilles d'oxygène. Mais ça ne va pas durer éternellement pour un temps. Pourquoi je dis ça? Mes frères et sœurs, même étant sauvés, il nous est difficile et tant dans ce corps de vivre pleinement, je dis pleinement notre héritage dans le royaume de lumière. Pourquoi? À cause de la chair en nous, à cause du péché. Comme je viens de dire, il est difficile de respirer dans l'eau parce que nos poumons n'étaient pas faits pour s'adapter à respirer dans l'eau. De même, aussi pour vivre notre héritage à cause de la chair en nous et à cause du péché. J'ai dit qu'on a besoin de bouteilles d'oxygène pour pouvoir respirer pour un temps dans l'eau. Je fais l'analogie. De même, pourquoi j'ai pris cette illustration, il faut aussi être équipé pour vivre dans le royaume de lumière, le royaume de Jésus-Christ, que je viens de vous décrire par toutes ces vertus que nous avons évoquées. Je veux le répéter. Donc, Dieu a pourvu à nous équiper pour que nous puissions vivre dans le royaume, dans le sphère du règne de Jésus-Christ. Il nous a doté des capacités par le Saint-Esprit pour vivre maintenant dans notre position d'héritier du royaume de Christ où règne la sainteté, la pureté, la justice, la vérité, l'amour, la bonté, l'humilité, la fidélité, la joie, la paix, la patience, le pardon. Et j'aurais pu continuer. Dieu nous a dotés, comme celui qui a besoin de bouteilles d'oxygène, il nous a dotés des capacités pour pouvoir vivre au quotidien maintenant dans le règne de Jésus-Christ, dans la sphère où règne Jésus-Christ. Magnifique. Vous savez, Paul disait aux Romains chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà l'héritage qui nous est réservé à chacun, si vous êtes en Jésus-Christ. Dieu a déjà pourvu à l'équipement pour vivre dès maintenant dans la sphère du royaume de Jésus-Christ. De quoi il nous a équipés ? Je fais un rappel de ce que nous avons vu tout au début. Dieu a implanté en nous sa vie. Dieu a mis dans nos cœurs le Saint-Esprit qui fut sa demeure en nous depuis notre conversion. Et nous sommes devenus une nouvelle création. Vous voyez l'équipement que Dieu a fait pour qu'on puisse vivre dans le royaume de lumière? Il nous a équipés. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu. Et oui, Dieu nous a équipés pour vivre dans la sphère de Jésus-Christ. Et maintenant, voilà l'héritage du Christ. Nous allons embrasser la totalité de l'héritage dans l'avenir. Mais dès maintenant, nous pouvons le vivre. C'est imparfaitement. Mais le désir est là de vivre dans ce sphère. Que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois au magasin, que je sois avec mes enfants, que je sois n'importe où. Ça doit se manifester comme une lumière. Vous voyez au plafond qui éclaire tout. Ça doit éclairer ceux qui sont autour de nous. Oui, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, depuis notre conversion, nous vivons avec des nouvelles inclinations. Toutes choses sont devenues nouvelles. De nouvelles affinités, de nouvelles dispositions pour nous permettre d'apprécier cette lumière dans laquelle aiment se trouver les saints, pour se réjouir de ce qui est bien, de ce qui est saint, de ce qui est vrai, de ce qui est juste, de ce qui est pur, de ce qui est digne de louange, de ce qui est agréable au Seigneur. Il faut se poser la question. Si vous n'aimez pas la compagnie des saints pour vivre dans la lumière, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et n'oublions pas, nous avons commencé que ce que nous sommes en train de nous entretenir dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14, c'est une prière de l'apôtre Paul. Et dans cette prière, il y a une action de grâce, le verbe que nous avons vu aujourd'hui, rendre grâce pour ce que nous venons d'évoquer. Je vous pose la question. Quand, pour la dernière fois, avez-vous monté votre reconnaissance vers Dieu de tout votre cœur? Quand, pour la dernière fois, avez-vous monté votre reconnaissance vers Dieu de tout votre cœur? Notre cœur devrait déborder d'actions de grâce et de louanges à l'Éternel. Oui, il faut se souvenir de ce que le Père a accompli pour nous en Christ. Il nous a délivrés, il nous a transportés du royaume de Satan à celui de Jésus-Christ.